Hello, ici Audrey de Chooseur Mentor. Bienvenue dans l'épisode 2 de cette nouvelle saison de Chooseur Mentor. Notre objectif reste inchangé depuis un an, se raconter pour inspirer et informer. Nous recevons donc pour vous, deux fois par mois, des personnalités qui nous motivent et inspirent et nous vous partageons des conversations absolument bouleversantes sur leur expérience professionnelle et personnelle. Nous recevons aujourd'hui pour vous Maïmouna Sen. Maïmouna a quitté son boulot, est en mère de 4 enfants pour se relancer dans les études en management du développement des entreprises. Une personne pleine d'audace et un exemple de résilience. Nous avons découvert Maïmouna pendant la période de confinement grâce aux formations de Young Job Network de Yann-Cédric Lohoré. Maïmouna a eu plusieurs vies qui se complètent et qui sont de vraies leçons chacune. Jeune élève brillante au lycée, passionnée par son père, médecin, elle arrive en France en 2002, débute par une fac de pharmacie. Après un échec au concours qui a été déterminant à la suite de sa carrière, elle se redirige vers les sciences et techniques pour ingénieurs et enfin vers le design de services. Nous découvrons avec elle, au cours de cet entretien, cette discipline innovante. Cet épisode nous a bouleversés réellement et une vraie amitié est née avec Maïmouna autour d'une passion commune, le design. Je ne vous en dis pas plus, je laisse donc place à notre conversation avec Maïmouna Sen.
Du coup, bonjour Maïmouna.
Bonjour.
Tu vas bien, j'espère.
Bien, et toi?
Oui, ça va. Je suis content de te recevoir sur Choose Your Mentor. Je sais que tu es une abonnée et que tu nous écoutes et je t'en remercie. On s'est découvert, donc on a discuté à l'occasion des activités de Young Job Network, donc du réseau de Yann-Cédric Lohoré, qui est aussi passé sur le podcast, épisode 5 ou 6, je ne sais plus. Et à cette occasion-là, donc j'ai fait une présentation sur la conduite du changement et toi ensuite sur l'excellence...
Sur l'expérience client.
Sur l'expérience client, c'est ça exactement. Et voilà, on avait échangé et je t'avais proposé de venir nous parler un peu de ce que tu fais et d'un sujet qui m'intéresse au plus haut point, donc le design de service, donc qui est appuyé sur le design thinking. On va en discuter. Donc, pour ne rien spoiler, je vais te laisser te présenter et ensuite on va rentrer dans le vif du sujet.
Très bien. Donc, je suis Maïmouna Sen. Je suis ivoirienne d'origine. D'accord. Ça peut surprendre pas mal de gens parce que Sen, ça sonne sénégalais, mais en fait, je suis sénégalaise de cœur. D'accord. Je suis épouse sénégalaise, on va dire. Ah. Donc, je suis designer de service, comme tu as dit, depuis quelques temps déjà. Donc, je suis née, j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Je suis arrivée en France à l'âge de 17 ans pour continuer mes études, mais je pense que ça, on va en parler un peu plus tard.
Oui. On va directement rentrer dans ton... la première question, c'est de savoir... quel souvenir tu as de ton enfance? Ton enfance a quel impact sur la personne, la femme que tu es devenue aujourd'hui? Quel lien tu fais entre ce que tu es devenue et ton enfance?
Alors, moi, j'ai une super... en tout cas, j'ai un super souvenir de mon enfance. Je l'ai passé à Abidjan, dans un quartier paisible, dans une famille modeste. De 5 enfants, je suis fille unique d'un père médecin et d'une mère professeure d'allemand à l'époque. Nous avions une vie modeste, hein. J'ai des souvenirs de moi épanouie. J'étais dans une école de quartier et je faisais partie des meilleurs élèves de ma classe. Donc, vous savez que j'étais reconnue, on va dire, pour cela. Mais j'ai un excellent souvenir de mon enfance. Et qui d'ailleurs a un impact sur la personne que je suis aujourd'hui parce qu'il y a des fondamentaux, on va dire que les valeurs qui m'ont été inculquées dans mon enfance et dans mon entourage, en tout cas dans l'éducation que j'ai reçue aussi bien de mes parents que dans l'environnement dans lequel j'ai grandi, font aujourd'hui la personne que je suis, me drive au quotidien. Et j'essaie au maximum en tant que maman de l'inculquer à mes enfants parce que c'est important et c'est ce qui C'est ce qui m'ont défini, on va dire.
Bien sûr. Et qu'est-ce qui était fondateur? C'est quoi les liens de famille, le travail, les valeurs familiales? C'est quoi qui était au centre de, bah, du coup, de ce que tu transmets à tes enfants?
Déjà, le goût de l'effort, le travail, l'excellence du travail. Moi, j'ai été pendant longtemps, je ne vais pas dire première de classe, mais parmi les meilleurs de ma classe jusqu'au lycée. Hein. Je pense qu'il y a peut-être quelques-uns de mes anciens camarades de classe qui vont peut-être écouter l'épisode, donc ils pourront te faire un témoignage après en commentaire. Oui. Mais l'excellence du travail a toujours été inculquée. Et puis, quand tu as une maman professeure, t'inquiète pas que derrière, ça travaille dur. Et ma mère, c'était comme très stricte. Bon, avec la vieillesse, c'est un peu ramolli, hein, mais la valeur du travail, c'est quelque chose qui, dès le départ, nous a été tous inculqués à mes frères et moi. L'esprit de famille, de solidarité, nous sommes une équipe. Donc ça nous a toujours été indiqué. Ça a toujours été le moteur de nos parents. Et moi, j'insiste là-dessus pour que mes enfants aussi soient des battants, soient toujours des travailleurs, pas des assistés, qu'ils aient confiance en eux, mais vraiment, et qu'ils soient solidaires. Nous sommes une équipe. Donc ça, jusqu'à aujourd'hui, je pense que c'est une des raisons qui a influencé la suite de mon parcours,
ouais.
Parce que ce sont des valeurs, en fait, qui font appel à l'humanité qui sommeille en nous. Et c'est très important.
Génial. Et du coup, là, on va rentrer dans ton parcours universitaire. Donc, tu restes à Abidjan jusqu'à ton bac.
Voilà, alors, donc oui, j'ai fait mon lycée à Abidjan. Donc, j'ai commencé au lycée municipal de Yopougon. Ensuite, j'ai fait ma seconde au lycée municipal d'Adekoubé. Juste la seconde. Et puis, pour des problèmes de transport, c'était compliqué pour moi. Ça a eu une influence sur mon année scolaire. Et du coup, mes parents ont décidé de me renvoyer encore au lycée municipal de Yopougon, qui était un peu plus proche de là où on vivait. Donc, j'y suis restée jusqu'à mon bac. J'ai obtenu un bac D, donc mathématiques et sciences naturelles. Je voulais devenir médecin comme mon père. J'avais une grande admiration pour mon père. On va dire que c'est bon. On est une fille quand on est une fille unique. On va dire qu'on a un attachement particulier avec nos parents, surtout avec la figure masculine. Et mon père, c'est quelqu'un qui a vraiment cultivé le don de soi. On recevait chez nous des gens malades qui venaient de partout d'Abidjan pour se faire consulter gratuitement. Des fois tardivement dans la nuit, des fois très tôt le matin, on se réveillait, il y avait déjà des gens au portail qui ne voulaient se faire consulter que par lui, qui limite n'allaient pas d'abord à l'hôpital, hein, qui venaient d'abord voir le docteur. Parce qu'il a son surnom, c'était docteur en fait. Et j'avais une admiration pour cet homme qui ne comptait pas ses heures, qui ne se fâchait jamais, qui avait une pédagogie quand il explique les diagnostics, quand il explique les traitements, les ordonnances, surtout à des personnes qui n'étaient pas lettrées à l'époque et qui sont sans moyens, je trouvais que c'était waouh, c'était mon héros et je voulais devenir médecin comme lui. Donc après mon bac, j'ai voulu faire médecine et puis j'ai un ami de classe qui m'a dit bah tiens, je pars au lycée français, à l'Institut français. Enfin, à l'époque, ça s'appelait le CCF.
Ouais.
Il n'y avait pas Campus France, ça n'existait pas.
Ouais.
Moi, je vais prendre un formulaire parce que je veux aller continuer mes études en France. Je lui ai dit, bah, ah bon, pour aller en France, c'est si simple que ça. Il n'y a pas d'autre chose à faire. Il me dit, mais tu n'y as jamais pensé? Je lui ai dit, non, on va dire, c'est pas quelque chose qui me drivait, quoi. Je n'y pensais pas forcément. Donc, il me dit, OK, je te dis comment faire pour avoir le formulaire. Donc, je rentre chez moi le soir, j'en parle à ma mère. Je lui dis, bah, tu vois, il y a un élève de ma classe, voilà ce qui s'est passé aujourd'hui. Elle m'a dit, ah bon? Donc, le lendemain, on s'est pointé, elle et moi, au CCF. On a pris les formulaires pour faire des inscriptions dans les universités françaises ici. J'avais aucune famille, je vais dire, j'avais qu'un oncle qui était à L'Île-les-Roses. Et on cherchait une fac qui devait être proche. Donc, en se renseignant, on nous a dit, mais médecine, est-ce que vous savez, il y a le numerus clausus et tout. les facs de Paris sont blindées. Pour passer le concours, vaut mieux aller en province où tu as plus de chances en fait, d'obtenir le concours parce qu'il y a moins d'étudiants. Ouais. Soit dit en passant, je suis venue. Hein. Finalement, j'ai eu mon bac, j'ai fait les démarches. Et puis, toutes les universités dans lesquelles j'avais choisi médecine étaient toutes blindées, donc elles m'ont pas acceptée. Il y en a qu'une qui m'a acceptée, c'est l'université de Reims, en Champagne-Ardennes, où j'ai fait la fac de pharmacie, parce qu'il n'y avait plus de place en médecine. Donc, à 17 ans, j'arrive en France pour la première fois. J'arrive dans une ville où je connais personne, mais vraiment personne. J'ai pas de parents, j'ai pas d'amis pour faire pharma la première année. C'était en 2002. C'est l'année où il y a eu la rébellion en Côte d'Ivoire. Et la situation politique a fait que je suis arrivée en retard. Les cours avaient déjà commencé quand je suis arrivée à Reims. Donc, le premier semestre a été hyper difficile. Ouais. Rien que par le changement, rien que par l'adaptation, par le niveau des cours et le retard d'un mois que j'avais raté, c'était infernal. Je suis sortie de cette année scolaire-là traumatisée, mais vraiment, avec un goût mitigé. Un goût mitigé pour la bonne élève que j'étais. C'est la première fois où j'échouais.
D'accord.
Et la première fois où j'échoue à un concours, ça a été une vraie remise en question, un vrai choc.
Il y a un concours à la fin de la première année du concours de l'école de pharmacie aussi, d'accord.
Tout à fait, tout à fait. La plupart de mes camarades de fac avaient fait une prépa avant.
Ouais.
Ils faisaient la première année de prépa, ensuite passaient le concours soit de médecine, soit de pharma. Même si on a de l'aide de la corpo, mais c'est vrai que l'aide de la corpo, elle est, la corpo, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'association des anciens élèves ou des élèves qui sont un peu plus avancés dans le cursus, qui aide en fait les nouveaux, donc les premières années, qui les mentore, qui leur donne des annales d'examen, qui les suit sur les matières les plus difficiles pour les aider en fait à performer. Donc il y avait les cours de la corpo auxquels j'assistais. J'avais pris des cours particuliers, mais jusque là c'était compliqué. Parce que cette année-là, en fait, les quotas d'étudiants étrangers pouvant prétendre à la deuxième année étaient que de, je crois, 4%. Donc le pourcentage, c'était que sur 1000 élèves, ils acceptaient 40. Par exemple que 40 étrangers. Ouais. Et dans étrangers, c'est tout ce qui est sauf français. Donc même les étudiants de l'Union européenne, les Américains, les Chinois, tout ce que tu peux imaginer dans le monde qu'on avait en cours font partie des étudiants étrangers.
Ouais.
Et ça faisait 7 ans de suite que aucun étudiant étranger n'avait été admis en deuxième année. Oui, c'était un truc de fou. Et j'ai quand même fail. J'ai quand même échoué parce que malgré que tu as la moyenne, en fait, tu ne passes que quand le quota de français.
Ouais.
Par exemple, si on dit qu'il faut 100 personnes admises, ils prennent les 100 premiers dans le classement, d'abord français, ensuite étranger. C'est ce qui m'avait échoué parce que même si tu as une bonne moyenne, en fait, tu fais pas partie du quota.
Et du coup, cet échec-là, ça te rebooste ou ça te casse un peu?
Ah, c'était d'abord un traumatisme. Hein.
Ouais.
C'était une vraie remise en question. Au départ, ça m'a vraiment cassée, pour être franche. Je ne comprenais pas. Et puis, c'est difficile quand on sort de l'adolescence, qu'on est tout seul et qu'on est dans un pays où on ne connaît pratiquement personne et qu'on n'a pas de famille.
Ouais.
C'est difficile à vivre.
Oui.
Mais par la suite, je m'y suis appuyée. Il y a eu une bonne dose de pleurs au téléphone avec mes parents, inconsolables. Et mon père m'a dit, mais tu sais, t'es pas bête. Hein. C'est pas parce que t'as échoué à un concours que tu échoueras toute ta vie. Donc, ne t'inquiète pas, je suis toujours fière de toi. Travaille et on verra comment ça se passe. Et je crois que le fait d'avoir entendu ça de sa bouche à lui m'a permis de reprendre du poids de la bête et de repartir sur autre chose. Par contre, j'étais traumatisée, je ne voulais plus faire médecine, je ne voulais plus faire pharma. Quoi.
Oui, j'imagine. Et tu te relances sur quoi, du coup?
Alors, et du coup, en fait, j'ai un pote qui me dit, mais tu sais, qu'est-ce que tu aimes faire? Je dis, mais moi, j'aime prendre soin des gens, je voulais soigner, quoi. Il m'a dit, bon, ok, je vois que là, c'est un peu dans le brouillard et tout. Comme tu as d'excellents résultats, vise plutôt des métiers qui pourraient recruter plus tard. Les métiers de la technique, donc de l'informatique, tout ce qui est à trait... Bon, à l'époque, ça ne s'appelait pas du digital, hein, mais tout ce qui est à trait à des choses techniques, technologie. Donc, je m'oriente, du coup, vers un DUG en sciences et techniques pour ingénieurs. Okay. J'arrive à la fac, le premier jour, je suis la seule noire femme parmi les étudiants. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais là?
C'était la fac de Reims, toujours?
Toujours la fac de sciences à Reims. Je dis, mais qu'est-ce que je fais là? Mais c'est quoi le délire? Mais bon, de quoi tu t'en convises, Maïmouna? Et figure-toi que ça a été l'une de mes plus belles années.
Oui.
J'ai rencontré des personnes vraiment exceptionnelles qui m'ont fait me surpasser, qui m'ont fait me dépasser, qui m'ont fait reprendre confiance en moi après mon échec précédent. Et donc, j'ai eu mon DUG en sciences. Après, j'ai évolué vers une licence en sciences pour ingénieur. Et puis, comme j'ai toujours travaillé à côté de mes études, je bossais dans un restaurant, dans un flunch. J'étais à la plonge. Et ensuite, je suis passée aux cuisines et au service en salle. Et puis, un jour, le directeur du restaurant me dit, Monsieur Debuste, mais je te savais pas aussi à l'aise avec la clientèle. Je dis, ah bon? Il me dit, oui, mais tu m'as pas montré ce visage-là de toi. Je te vois bien studieuse, appliquée à faire tes plats en cuisine, à faire tes entrées derrière. Mais waouh, bien. Et ça a été ma première réelle révélation sur les métiers de la relation client. Mais à cette époque-là, ce n'était pas encore révélé, en fait, à moi. Je me sentais bien, c'est quelque chose que je faisais bien. Et puis, voilà. Et puis, il est arrivé un moment où, comme dans la suite de mes études, je partais en licence et que je ne voulais pas rester à Reims, je suis allée à Metz. Mmh. Et là-bas, en fait, j'ai eu l'opportunité, pendant ma licence en commercialisation de technologie, j'ai eu la chance d'intégrer le centre de relations clients de l'EF au début en tant que saisonnière. Donc, je venais en remplacement de quelqu'un qui était en congé maternité. Et puis, ça s'est transformé en un contrat sur du long terme parce qu'ils ont voulu me garder. Je faisais partie de la première cohorte en fait, d'étudiants qui prenaient à l'intérieur du centre de relations clients pour tester. Et j'ai adoré. Donc, j'ai fait ma licence, j'ai continué parallèlement à EDF.
C'était une alternance, c'est ça?
Pardon?
C'était une alternance ou c'était un...
Non, c'était vraiment un job étudiant.
D'accord.
À côté de ma fac.
Ah, ok, d'accord.
Donc, j'allais à l'école en journée. Je sortais de la fac. À peine je sortais de la fac, je fonçais chez EDF pour assurer le service jusqu'à la fermeture, des fois à 22h. Les samedis, on était ouvert jusqu'à 22h, donc je faisais ça.
Okay.
Jusqu'à ce que je passe en temps plein chez EDF. Et ensuite, pour la suite de mes études, en fait, je ne pouvais pas rester dans la même région. Ouais. Donc, j'ai dû malheureusement quitter le centre de relations clients de EDF pour une autre région qui est... mais j'ai fait le tour de France, hein. Pour une autre région.
D'accord.
Donc voilà.
Et du coup, tu commences ta vie professionnelle derrière.
Voilà, je commence ma vie professionnelle. Donc je termine EDF. Ensuite, dans la région dans laquelle j'arrive, j'ai un poste de commercial d'attaché-co pour Aguerre, qui est un fabricant de tableaux électriques. Donc ils avaient toute une nouvelle gamme sur la domotique. À l'époque, qui était en vogue, tout ce qui était interrupteur connecté et tout. C'est maintenant qu'on croit que c'est acquis, mais à l'époque, c'était waouh, limite un claquement de doigts, les choses s'allumaient.
On est aux alentours de 2010-2011.
C'est ça, ouais. C'est ça, aux alentours de 2010-2011. Donc, du coup, à Guerre, ça se passe super bien. Je travaille en B2B, donc je découvre le B2B après avoir fait du B2C, par exemple, chez EDF. J'y reste quelques temps, et puis ensuite, j'ai commencé à être un peu fatiguée de l'itinérance du métier de commercial sur une région où j'avais mon premier fils. Donc, ça commençait à être un peu compliqué entre les déplacements jusqu'à pas d'heure. Couvrir un département, c'est long, c'est prenant, et je supportais de moins en moins, donc j'ai décidé de faire une pause professionnelle pour vraiment prendre le temps de me consacrer à ma vie de maman, surtout que c'était le premier.
D'accord, oui, bien sûr.
La pause a duré quelques temps, et j'ai décidé de ne plus faire de l'itinérance pour pouvoir conserver une certaine qualité de vie, donc j'ai voulu un poste en sédentaire. Et par la force de... En même temps, je dirais que le hasard n'existe pas, mais je vais pas le dire par un hasard, mais du plus heureux, j'intègre la Société Générale.
Ok. Sur la relation
Sur un poste de commercial, donc de conseiller client, donc j'avais un portefeuille, généralement grand public. Donc, j'étais conseiller client chez la Générale. Je suis restée quelques temps. Et ensuite, j'ai eu l'opportunité de continuer, non pas en tant que conseillère, parce que je pensais que j'avais déjà fait le tour de pas mal de choses, ayant géré de la clientèle chez EDF et chez Aguerre. Je voulais aller à un niveau supérieur, mais sauf que le temps que j'aurais pris à la Générale pour gravir les échelons, ça allait être un peu plus long.
Oui.
Donc, j'ai eu l'opportunité de rentrer chez AVEM, qui est une holding, en fait, une filiale du groupe Crédit Agricole.
D'accord.
Qui s'occupe de la monétique commerçant. Donc, j'avais une clientèle B2B. J'adorais. J'adore toujours. Et j'ai fait de la gestion de contrat. Donc, j'ai été prise comme co-gestionnaire de contrat. J'avais un portefeuille d'une dizaine de banques nationales, en fait, qui avait des offres sur de la monétique commerçante. Et mon rôle, en fait, c'était de gérer les contrats-là, d'être l'interface entre les banques et les clients commerçants qui utilisaient les terminaux de paiement de ces banques, leur facturation, la gestion des termes des contrats en eux-mêmes, et l'évolution de ces contrats-là par rapport aux usages des clients. Donc, j'y suis restée pendant très longtemps, en fait, à faire ça.
Oui. Enfin, mais tout ça, c'est pas les métiers de la banque, tu les apprends sur place ?
Sur place, oui.
Mais et du coup, comment est-ce que tu convaincs la première opportunité Société Générale de te prendre comme conseillère cliente ?
Je vais te donner une anecdote. Quand je suis arrivée en entretien à la Société Générale, la personne que j'avais en face de moi m'a demandé mais en fait, pourquoi je vous prendrais si vous n'avez pas fait de BTS banque ni de licence banque Et je lui réponds, mais si vous m'avez appelé en entretien sur la base de mon CV, c'est que j'ai forcément une compétence qui vous sert. Et moi, je pense que la compétence que je vous sers, c'est mon relationnel, c'est ma capacité d'adaptation. Le gars, il m'a regardé, il m'a dit, mais bon point. Bon point. Il m'a dit, mais vous êtes sûr que ça ne vous fait pas peur? Je dis, mais... Pour quelqu'un qui a réussi à échouer au PCM1 en concours de pharma, ne vous inquiétez pas, il n'y a rien qui me fait peur. Je pense que j'ai déjà tout vu. Donc, il a été mon mentor au sein de la Générale. Donc, mes premières formations ont été assurées par deux dames extraordinaires, Christelle Dequester et sa collègue. Donc, j'y suis restée et c'est comme ça qu'ils m'ont fait confiance. Et je pense que quand... une opportunité pareille se présente à un individu, la moindre des choses, c'est de tout déchirer, de cartonner.
Clairement.
Pour moi, tout à fait. Et je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles chez AVEM, j'ai été prise aussi, parce que dès le départ, je leur ai dit, OK, moi, j'ai fait de la clientèle, mais on va dire en B2B ou en B2C. J'ai jamais fait de monétique commerçant, mais je ne demande qu'à apprendre. Et au pire, mettez-moi à l'épreuve.
Oui.
Je suis allée au culot et ça a marché. Du coup, je suis passée sur des contrats. Au départ, j'avais que 2-3 banques dans mon portefeuille. Hein, et là, à l'époque, c'était rien du tout. Jusqu'à une dizaine de banques après dans mon portefeuille.
Génial. Ouais, bravo. À l'audace. Et comment, du coup, tu arrives au design de service?
Le design, on va dire que j'avais dans toute cette vie scolaire, universitaire et professionnelle, je pense que l'essence même de tout mon parcours après a toujours été de retrouver cette part d'humanité que je reconnaissais en mon père. Maintenant, avec le recul, je peux dire ça. Quand j'étais dans les différentes institutions dans lesquelles j'étais, une des choses qui m'a le plus frappée, c'est le décalage entre la vision des institutions, en tout cas en étant ce que nous on avait comme vision, et est-ce que le client vivait. Et on se voyait toujours noyé dans des process, dans des procédures, dans des normes, dans des notes de service, des fois qui se contredisaient, des mails qui contredisent des normes de service, plein de choses, et je trouvais que c'était vraiment aberrant. Et donc, pour changer ça, je me suis dit, mais soit tu le changes en restant à l'intérieur de l'organisation, mais en essayant de gravir les échelons pour être à un niveau de décision qui fasse que tu puisses entreprendre les changements.
Ouais.
Et ça va te prendre du temps. Soit tu décides de faire une pause, de te donner les moyens, de te reformer, de sortir avec un bagage qui te permette de tout de suite intégrer un... Voilà. Donc, j'ai fait une pause. J'ai quitté AVEM volontairement. Je suis retournée sur les bancs. J'ai fait un master en management du développement des entreprises et des administrations. Quand je suis arrivée, on me dit, mais vous êtes mariée, vous avez 4 enfants, vous avez un emploi bien payé. Comment ça se fait que vous lâchez tout? Vous revenez sur les bancs. C'est incompréhensible, je veux dire. Vous aurez pu le faire, mais autrement.
Oui.
Je leur ai dit, non, moi, quand je fais quelque chose, je le fais entièrement.
Oui, tu n'avais pas envie de le faire en exécutive ou que tout ça en part-time, non?
Non, je voulais le faire en full-time. Et c'est aussi un challenge. J'aime me challenger. J'aime faire des choses que je n'ai jamais fait avant. J'aime, je ne sais pas, me prouver à moi-même que je peux y arriver. Non, j'aime me dépasser.
Ouais.
On va dire que le goût du travail, le goût de l'excellence que j'avais dans mon enfance m'a toujours drivée.
Ouais.
C'était un challenge que je me suis lancée. Donc, je me suis inscrite à mon master. Je l'ai fait. Et quand, pendant mon master, quand j'échangeais avec les profs et tout, ils me disaient, mais t'as un truc, t'as une vision. C'est vrai que t'as une vision business des métiers. Mais ça sent que tu as du coffre, que tu as déjà travaillé, tu as déjà été en contact avec l'environnement de travail. Bien. Mais pourquoi tu veux faire ce master-là, Gina, pour changer le monde, pour faire des choses telles que je le vois? Donc, j'ai fait ce master. Et un jour, je suis tombée dans mes lectures, je suis tombée sur un article de blog écrit par Laurence Gaudier. Laurence Gaudier est une des premières designers de services en France.
D'accord.
Elle est l'auteur du premier livre sur l'expérience client sorti en France.
Okay.
Et quand je lisais l'article, je me suis dit, mais cette dame-là, elle dit exactement ce que je vois, ce que je sens. C'est incroyable. Et je lui ai envoyé un message sur LinkedIn.
Énorme.
Énorme. Encore une fois, au culot.
Ouais.
Je lui ai dit, bonjour, on ne se connaît pas, mais je voulais juste vous dire que j'ai lu tel article de votre blog, donc je vous mets le lien de l'article. J'adore. Tout ce que vous dites me parle parce que c'est ce que j'ai vécu en entreprise et c'est ma vision des choses. Elle était étonnée, donc elle m'a tout de suite répondu, ah, on peut échanger, tout ça, tout ça. Et je lui ai demandé de me parler du design de service. Qu'est-ce que c'est le design de service? Donc, elle m'explique que c'est une discipline nouvelle en France, qu'elle est formée dans des pays anglophones, elle a dû pratiquer dans des entreprises anglophones pour ça, pour pouvoir avoir les armes, les outils et pour pouvoir faire ce que le designer fait. J'ai dit, wow, ok, bah, je vais être designer de service. Elle m'a dit, quoi? J'ai dit, oui, je vais être designer de service. Elle m'a dit, ok, on va faire une formation, mais entre-temps, vous pouvez vous former. J'ai dit, ok, de toutes les façons, pour être designer, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un designer de service, un designer de service, c'est quelqu'un qui a une vision 360 degrés de l'organisation, d'une entreprise. Aussi bien de ses processus internes que de son environnement, que des collaborateurs, que des clients. Et le rôle d'un designer de service, c'est de replacer le client en tant qu'être humain au centre de toute la stratégie d'une entreprise.
C'est appuyé sur le design thinking ou pas?
Oui, c'est appuyé sur le design thinking.
Okay. Donc c'est la partie service.
On partage des outils basés sur les sciences comportementales. Mais il faut savoir que les gens, quand on leur parle de design thinking, ils pensent direct post-it, atelier et tout. Alors qu'il y a toute une démarche derrière. Toute une philosophie, c'est tout un mindset de se dire, la personne avec laquelle la personne avec laquelle je deal, c'est un être humain. Donc, je dois répondre à ses attentes, je dois répondre à ses préoccupations, je dois le servir. Je dois servir l'organisation aussi, parce qu'il n'y a pas que le client externe qui paye, mais il y a aussi les collaborateurs qui font partie de l'entreprise et comment adresser leurs besoins de telle sorte que l'expérience qu'ils délivrent au client soit l'expérience la plus correcte et la plus enchantante possible pour le client.
Absolument.
Et j'ai trouvé que c'était génial. Bah, oui. Donc, je me suis auto-formée dans les livres d'abord à travers d'un masterclass. J'ai passé ma vie à suivre des masterclass, des formations en ligne, des bouquins parce que il n'y a pas vraiment de formation en design de service vulgarisée comme on peut avoir une licence en droit, des choses comme ça. C'est vraiment très spécifique.
Tu t'es formé, tu me disais qu'il n'y a pas de diplôme, mais c'était à l'époque. Là, depuis un moment, il commence à avoir des diplômes en design thinking et tout ce qui est associé.
C'est ça. À l'époque, il n'y avait pas vraiment de cursus formel comme aujourd'hui. C'était vraiment chacun se forme comme il peut. Ceux qui avaient les possibilités d'aller dans des universités en Suisse ou à Amsterdam ou en Angleterre ou aux États-Unis pouvaient le faire. Mais bon, moi, je n'avais pas envie de faire ça. Donc, maintenant, il y a des masters en design. L'école Strat aussi forme des designers.
C'est génial.
Il y a pas mal d'écoles maintenant qui proposent du design. Bon, beaucoup de UX. Je vois pas trop de design de service, mais
UX, user experience.
Voilà, il y a beaucoup de user experience, beaucoup plus orienté sur tout ce qui est digital.
IT, ouais.
Mais il y a des choses qui se font maintenant qu'il y a quelques années, on faisait pas.
Si tu me permets d'intervenir sur ça, parce que hier, je parlais il n'y a pas très longtemps avec une amie avec qui je suis dans une association, qui me disait, je lui parlais du design thinking et tout ce que ça peut apporter. Elle me disait, mais tu veux apporter ça en Afrique, tu ne penses pas qu'il faille plutôt de la technologie dure et c'est ce qui va changer les choses. Bah, je lui disais, mais en effet, si dans le iPhone, il n'y a pas de design, mais ce n'est pas le iPhone, la technologie seule n'apporte pas de réponse. La technologie, c'est un moyen, c'est pas une fin. Et derrière, il faut quelque chose pour organiser la technologie pour que ça puisse répondre clairement à un besoin d'un client et que ce soit pas juste la technologie pour de la technologie.
Tu as parfaitement raison. C'est une des raisons pour lesquelles beaucoup de programmes de transformation digitale échouent.
Ouais.
On on a trop tendance à aller dans l'outil digital, la performance du logiciel ou la performance des infrastructures, sans prendre en compte justement cette partie design, cette partie retour aux sources, retour à l'utilisateur, à ce qu'il veut vraiment. Tu as beau avoir une appli qui pète de la mort, qui tue avec le logiciel qui est super,
si personne ne veut.
Si ça ne répond pas, voilà, si ça ne répond pas aux besoins du client, si ça n'est pas utilisable pour lui, c'est compliqué. Et c'est à nous, en fait, de faire entendre cette voix aussi aux différentes entreprises en leur disant, très bien, vous voulez faire du digital, c'est bien, vous voulez faire de la transformation, ok, c'est bien, tout n'est pas digitalisable, déjà, ça c'est un, d'un. Et de deux, on repart de la base, on fait de la recherche utilisateur,
oui.
On va au contact des clients, on va savoir comment ils interagissent aujourd'hui,
oui,
on va savoir qu'est-ce qu'ils cherchent à faire comme jobs to be done, c'est-à-dire quel est le job qu'ils veulent faire avec l'appli. Si ça se trouve, l'appli n'est peut-être pas une solution à leur problème.
Bien sûr.
Mais on mène cette réflexion d'abord, avant ensuite de faire des wireframes, tout ce qui va avec, tu vois.
Avant qu'on rentre, parce qu'on va rentrer dans le concret d'une démarche design de service, donc ou design thinking.
Mm-hmm.
Tu parlais avec de Laurence Baudy et de la fin de ta formation. Est-ce que finalement, mm-hmm. tu t'es formé un peu comme tu pouvais, est-ce que tu as fini par intégrer une école et faire une formation certifiante, quelque chose de...
Oui, alors quand j'ai terminé, en fait, quand j'ai terminé, parce que ça ne finit jamais, hein, on continue toujours d'apprendre,
ouais.
j'ai fait TIDS, This is Service Design Doing, qui est le programme de formation de la Service Design Academy, qui est l'organisme international, en fait, des designers de services du monde.
Okay.
Et j'ai eu la chance, vraiment l'immense chance, d'être formée par les auteurs de la Bible du service design, ceux qui ont écrit le recueil de pratiques, d'outils à utiliser en design, ce sont eux qui m'ont formée.
Tu peux dire les noms. Et c'était quoi? C'était online ou ils sont venus en France?
Non, c'était en présentiel.
Okay.
C'était la troisième fois qu'ils venaient en France. Donc, okay. C'était Adam Laurence Saint-Gun, Max Tidum, okay. Qui sont les co-auteurs de This is Service Design Doing.
Okay.
Qui était à la base un site internet où ils partageaient justement la méthode pour la vulgariser, et maintenant ils ont écrit un livre qui rassemble, je crois que le livre doit faire 400 et quelques pages, je sais plus.
Okay.
C'est comme le Mercator du marketing.
D'accord.
Mais pour le service design.
D'accord.
Donc on l'a fait en présentiel avec un certificat, un diplôme certifiant et tout, pour avoir aussi on va dire ce document qui peut être demandé par beaucoup de gens.
Ouais. Et là, on est quoi? En 2014-2015?
Non, là, on est... Oh, on a avancé. Là, on est en...
2016?
Non, plus loin, récemment. Hein.
D'accord, ok.
Là, on est en 2019.
Presque. D'accord, parfait.
On est presque en 2019, oui. C'est ça, on est en 2019 même.
Ok. Et ça montre le grand retard de la France sur ces sujets, quoi. Enfin...
Ah, complètement. Parce que tu vois, le fait d'avoir intégré la formation et d'échanger avec mes collègues, du coup, m'a permis de voir que, en fait, on est à un niveau, je ne sais pas, les anglophones, ils sont peut-être au niveau 150. Nous, on est peut-être au niveau 20, voire 15,
ouais.
en France. Sur la partie UX encore, ça va, on commence à avoir plein d'offres en UX, mais en design de service pur, mais les anglophones sont très loin, donc j'imagine même pas en Afrique le décalage qu'on peut avoir, quoi.
Oui, non, mais c'est sûr. Et c'est à ce moment-là que tu as le diplôme du laptop ou c'est moi qui me...
Oui, c'est ça.
C'est ça le diplôme
du laptop. C'est à ce moment que j'ai le diplôme du laptop, oui.
Ok, donc le laptop, c'est une école, hein, une organisation qui forme...
Voilà, le laptop... C'est un organisme de formation. Comme Service Design Doing n'est pas en France, c'est un organisme international. Donc, il passe par le laptop, en fait, pour délivrer cette formation-là pour que elle puisse être data dockée.
Ok, génial. Très bien. Et du coup, maintenant, on va rentrer dans ce que c'est que le design de service. À quel moment
mm-hmm.
tu Un chef de, bah moi en tant que CEO de ma boîte, à quel moment j'ai besoin d'un designer de service pour dans mes process? Et qu'est-ce que le designer de service va apporter comme comme méthodologie et comme valeur?
Alors, tu auras besoin en tant que CEO d'un designer de service pour comprendre les besoins de tes clients. Pourquoi? Et tu peux comprendre les besoins de tes clients aussi bien en phase de lancement de produits, donc dans une démarche d'innovation, ou dans une démarche de fidélisation de clients. Tu as un gros taux de churn, donc le taux d'attrition, le taux de perte de clients, ou même si ton taux d'attrition n'est pas faible, tu veux capitaliser sur la fidélisation de tes clients. Tu as besoin qu'un designer de service vienne dans ton entreprise, observe tes clients, observe ton organisation, eux te disent comment tes clients te perçoivent sur tous les points de contact que tu as avec eux et comment tu peux mettre telle ou telle action en place pour justement les satisfaire et satisfaire leur expérience personnelle avec toi.
Génial. Et toi, du coup, derrière, enfin, moi, je connais, enfin, je sais un peu, tu fais quoi? Tu fais un journey map, donc un
journey map. Alors, on va commencer d'abord par la recherche utilisateur.
Ouais.
Il y a plusieurs techniques, en tout cas, inspirées des sciences comportementales. Donc, on va observer les clients à des points d'interaction. C'est-à-dire, par exemple, si je prends l'exemple d'une agence, d'une agence immobilière, je vais être dans l'agence, observer incognito à la Colombo. Qu'est-ce que le client il veut quand il vient dans l'agence? Quelles sont les questions qu'il pose? Quelles sont ses attentes? Quels sont ses ressentis? Quelle est la façon avec laquelle? Parce que des fois, il y a le mode même d'interaction. C'est-à-dire que quelqu'un peut vouloir se déplacer physiquement en agence alors qu'il a la possibilité de téléphoner, d'aller sur l'application, sur le site ou d'envoyer un mail, par exemple. Donc, qu'est-ce qui, dans les interactions physiques, peut être plus important? Donc, on va chercher à comprendre le client, comprendre ses besoins. Donc, ça passe par dans l'observation, ça passe par des études qualitatives, donc des interviews, des focus, groupes. Ça passe par du quantitatif aussi. Et pour cela, on peut se baser sur des mesures. Si l'entreprise a du CRM, on peut se baser aussi sur les données du CRM en question. Ensuite, quand on a fini de faire de la recherche, bon, de toute façon, généralement, on finit jamais. Hein, mais on a quelque chose qu'on appelle un mur de recherche qui répertorie toutes les informations revenues du terrain. Et de cette recherche-là, on va ressortir la question clé qui, vous avez dit que vos clients se plaignent, par exemple, du temps d'attente ou ils se plaignent de tel ou tel aspect. Ben, en fait, quand on les a interrogés, on s'est rendu compte que c'est pas tant le temps d'attente qui est le problème. Le problème, c'est qu'en fait, ils viennent physiquement parce que tel ou tel service que vous leur proposez n'est pas opérationnel.
Oui.
Ou alors, on a eu le cas, par exemple, des distributeurs automatiques de billets. Il y a des gens qui préfèrent venir retirer de l'argent en espèces au guichet plutôt qu'au distributeur, non pas parce qu'ils sont illettrés, non pas parce qu'ils ne savent pas utiliser le distributeur et qu'il faut les éduquer pour, mais juste parce qu'ils n'ont pas confiance en la machine.
Donc, vous...
Et qu'ils...
Du coup, le levier, c'est comment donner confiance à la machine plutôt que... c'est pour identifier le levier sur lequel on va...
Voilà, c'est pour identifier déjà les motivations, les besoins. Qu'est-ce qui, s'il veut retirer de l'argent en espèces au guichet, c'est qu'il a, suite aux recherches, il est ressorti un aspect confiance. Donc, il faut travailler sur votre confiance. Il faut travailler sur la sensation de vos points d'interaction, la sécurisation, par exemple, de l'environnement dans lequel le distributeur est. Est-ce que c'est un endroit où il y a beaucoup de passages, donc ils ne sont pas en sécurité de passer par le distributeur, par exemple? Il y a tous ces petits points-là qu'une entreprise ne voit pas,
ouais.
Et que nous, designers, nous allons lui permettre de voir, justement, à travers nos méthodes de recherche. Donc, quand on aura fini tout ça et qu'on aura dégagé la question centrale, en tout cas, la préoccupation, on fera une carte d'empathie. La carte d'empathie, c'est quelque chose qui permet de savoir que pense le client, qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce qu'il craint, qu'est-ce qu'il veut quand il interagit avec vous. Ça, on le fait en interview avec des clients, oui. Mais on le fait aussi avec les collaborateurs, dans le cadre de la symétrie des attentions. Oui. Quand j'interagis avec un conseiller, derrière, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il faut qu'il clique sur 10 icônes différentes pour pouvoir faire le job? Est-ce qu'il a 10 administratifs à faire derrière? Est-ce qu'il y a tout un étage de cycle de décision qui l'empêche d'être autonome sur certaines tâches? Bref, on va faire un lien entre ce que le client vit, ressent et ce que le collaborateur vit, ressent et fait pendant l'interaction. Ensuite, on fera le parcours client.
Moi, je suis passionné de ça, mais si les auditeurs ils sont aussi passionnés, pour pas rebuter ceux qui sont pas des auditeurs dans l'âme, n'hésitez pas à contacter Maïmouna sur LinkedIn ou moi et je ferai le relais. Mais pareil, moi je suis assez convaincu de l'utilité du design thinking et du design de service pour mettre en œuvre des technologies. La technologie seule ne peut pas suffire parce que forcément et c'est tout l'enjeu de toutes les méthodologies agile, lean startup, design qui sont arrivées dernièrement pour dire la technologie oui, mais au service des utilisateurs et des salariés en entreprise quoi.
Tout à fait.
Du coup, Maïmouna, donc aujourd'hui tu t'es mise en indépendant, si je me trompe.
Oui.
Donc tu bosses à ton compte, tu cherches tes missions. Hein.
C'est ça. C'est ça.
Et ça se passe comment comment tu le vis cette nouvelle étape de ta vie?
Extrêmement bien.
Ouais, c'est beaucoup. Enfin, tu préfères au salariat. Hein.
Ah oui.
Oui, totalement.
Je totalement. Au début, par contre, comme j'aime me challenger, donc encore une fois, au culot, j'ai décidé de le faire comme ça, mais je voulais donner un sens à ma vie. Outre le fait que je fasse un métier qui me parle, je voulais cet équilibre vie privée, vie professionnelle, cet épanouissement et ce sens que je ne trouverais pas dans le salariat. Et que le fait d'être à mon compte m'a permis de trouver vraiment de façon très épanouissante.
Exponentielle, oui. Et sur les années qui suivent, est-ce que tu envisages de travailler ailleurs qu'en France ou est-ce que pour le moment, tu es là? Tu envisages un retour en Afrique, d'aller apporter du coup cette méthodologie-là sur des courtes missions ou sur un temps plus long? C'est quoi ton rapport?
Moi, je suis toujours tournée vers le continent, toujours. C'est vrai que je suis venue il y a très longtemps, mais je n'ai jamais vraiment coupé le cordon, en fait, avec le continent. J'y suis souvent. Je tiens à ce que mes enfants y soient aussi souvent pour être imprégnés au maximum de cette culture-là. Et je suis convaincue que nous, en tant que diaspora africaine, il est de notre devoir, à un certain moment de notre vie, d'apporter ce qu'on a appris comme méthode, comme outil ici pour développer le continent. Ouais. Si en France, on est à 20 ans, 30 ans de retard peut-être sur le design, je ne peux pas accepter que l'Afrique soit à 50 ans ou à 100 ans de retard. Il est aussi de notre responsabilité de le faire. Donc, j'ai quelques missions à venir d'ailleurs sur le continent. Génial. Et je vois que de plus en plus... de personnes commencent à entendre le message que toi et moi on diffuse concernant toutes ces méthodologies-là. Oui. Ce que ça peut apporter. Il y a certaines entreprises qui font déjà du design thinking sur place, qui ont peut-être besoin de monter en compétence sur certains aspects. Et je suis résolument tournée vers le continent. Hein.
Absolument. Tu as vu Youx ou pas? Ça te parle, Youx?
Oui, je connais Yann Lebeuf.
Je l'ai vu, moi j'ai découvert, hein, il doit y avoir quelques mois. Donc Youx, c'est une entreprise, on va dire franco-africaine, hein, qui est basée au Sénégal avec un CEO qui s'appelle Yann Lebeuf, justement, je crois. Il a toute une équipe et qui font des missions en design. sur toute l'Afrique. Ils ont fait un projet assez super intéressant en Mozambique ou en Zambie, je sais plus, où ils ont aidé à développer une application pour des gens qui étaient au village, quoi, qui parlaient pas forcément le français, mais qui ont, avec des recherches utilisateurs, ont permis de trouver des méthodes pour leur permettre d'utiliser l'application. C'est une application agricole. Donc, si vous êtes intéressé par le sujet, UX, YUX et tout ce qui est design, voilà. Maïmouna...
C'est vraiment UX. C'est vraiment un des exemples palpables de la puissance du design. En tout cas, ce que le design peut apporter au continent.
Ouais.
C'est une aventure qui date d'il y a 4-5 ans qu'ils ont commencé. Aujourd'hui, c'est vrai qu'ils sont beaucoup axés sur les produits digitaux parce que c'est des UX à la base. Mais c'est formidable ce qu'ils arrivent à faire. Ils ont maintenant un bureau à Abidjan,
UX. Ouais.
Ils travaillent à travers le continent et il faudrait qu'il y ait encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de designers qui viennent en Afrique.
Oui, bien sûr, parce que en gros, ça va améliorer la vie parce que ça va améliorer les processus, ça va améliorer les produits, ça va améliorer les services. C'est ce que je veux que les gens comprennent, c'est que un designer, c'est un peu un ostéo, quoi, des organisations et des services. C'est qu'il y a personne qui va faire que votre service que vous voulez délivrer soit fit avec ce que les gens ont besoin. Ou plutôt l'inverse, que votre service soit fit avec ce que les gens ont besoin. Je me perds dans mes mots. Mais voilà. Donc, tu veux rajouter quelque chose dessus, Maïmouna ?
Non, tu as tout dit. C'est ça. C'est ça. Faut que ça fit.
Excellent. Est-ce que tu as des mentors, Maïmouna ?
Oui. Alors, dans ma vie, j'ai des mentors, des coachs, si on peut dire ça comme ça.
Ok.
Mon mentor dans le design, c'est Laurence Body.
Tu es restée en contact avec elle?
Ah oui, je suis restée Laurence et même Adam, hein, Adam Laurence ou Renatus aussi, qui sont mes formateurs du coup. Et puis, donc, ils m'inspirent beaucoup par leur parcours, par les conseils, par leur pratique, le niveau de connaissance qu'ils ont en design, c'est impressionnant. Pour le chapitre français, je trouve qu'on n'est pas, on les valorise pas assez, malheureusement. Dans ma vie personnelle, outre mon père, j'ai ma mère, qui est un mentor sur lequel je peux m'appuyer à n'importe quel moment. C'est un modèle de femme. Pour ce que je suis en tant que femme, elle m'a montré depuis toujours ce qu'une femme devrait être, c'est-à-dire libre. Libre de pouvoir penser par elle-même, libre de faire par elle-même, d'être au niveau d'homme, voire plus, de ne pas se brider, cette confiance en soi et le goût du travail, c'est ma mère. Le côté humanisme, c'est mon père. Et j'ai un coach, on va dire H24, qui est mon époux. Qui est derrière avec toutes les décisions que je prends, toutes les choses que je fais au culot, et qui est là à me booster, à me pousser, à me dire tu peux y arriver, tu peux le faire, ne t'inquiète pas, ou quand j'ai des moments de doute, qui est là pour me driver. Ouais. Et c'est très important, surtout dans une vie entrepreneuriale. On a vite fait se retrouver seul et avoir ce soutien derrière, c'est très important.
Génial.
Donc, je lui dis merci pour ça aussi.
Génial. Si tu pouvais passer un déjeuner, avec une personnalité vivante, décédée, est-ce que tu as un nom en tête là tout de suite qui te,
Un nom Allez, deux noms. Deux noms. En tant que femme, Michelle Obama.
Ouais.
J'ai dévoré son livre Devenir. J'ai encore adoré le docu sur Netflix.
Il était génial.
C'est une femme qui a une force de caractère. C'est une femme qui a un courage. Donc, ce serait Michelle, la première personne. Et la deuxième personne, ce serait Nelson Mandela.
Et tu sais pourquoi, lui ? Enfin, à part la grande personne qu'il est.
Pour le cœur. Oui, mais pour
le pardon.
Pour l'humilité qu'il a. C'est quelqu'un qui, je vais pas dire qu'il se mettait au niveau de tout le monde, mais il a une telle humilité, une telle force de caractère, un tel charisme qui force l'admiration.
Excellent. Est-ce que tu as des, là on arrive quasiment à la fin, hein, est-ce que tu as des hobbies, Imouna, des choses que tu fais pour augmenter ta productivité, pour t'améliorer?
Oui. En termes d'hobby, j'adore lire.
Ah.
J'écoute beaucoup de podcasts aussi.
Ah.
J'adore pâtisser, mais vraiment. Donc, le plus souvent, quand je suis dans des périodes, on va dire, stressantes et tout, je lâche tout et je vais en pâtisserie. Je vais en cuisine, je crée des pâtisseries. Donc, du coup, ça me fait penser à autre chose qu'à mon ordi. Ça, c'est des hobbies. Pour ma productivité, je me force tous les matins à commencer ma journée aussi bien en prière qu'en instant de gratitude.
Ouais.
J'ai un petit moment de reconnexion avec moi-même, dans le calme, même si c'est 10 minutes de méditation, pour vraiment commencer la journée en douceur. Même si c'est 10 minutes par jour, tous les jours, je m'attelle à le faire. Et je me fixe toujours une limite entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle pour ne pas que ça empiète sur le bien-être et l'équilibre de ma petite famille.
Excellent. Du coup, sur les livres et les podcasts que tu écoutes, on va te les dire. Est-ce que tu peux nous donner 2-3 livres et 2-3 podcasts qui sont fondateurs pour toi et...
Donc, un livre, j'en ai déjà parlé, hein, « Devenir » de Michelle Obama, qui est super intéressant, qui est top, qui permet d'apprendre beaucoup sur la vie de Michelle. Un livre que j'aime beaucoup, qui va surprendre des gens, c'est Amukulele de Amadou Ampateba.
Ouais, l'enfant peut, c'est ça.
L'enfant peut.
Ouais.
En termes de podcast, je suis aux mentors, hein. Pour ceux qui n'écoutent pas, abonnez-vous.
Ah, merci.
Oui, j'ai écouté presque tous les... Non, je crois qu'il y a le dernier que je n'ai pas écouté. Mais sinon, j'ai écouté la plupart des épisodes. J'écoute aussi beaucoup Les Entrepoteurs, qui est le podcast de Alex Vidéo, qui était avant un influenceur voyage qui faisait le tour du monde. Donc, je le suivais déjà avant, il y a quelques années, quand il avait commencé son tour du monde. Et maintenant, il a fait un podcast sur la vie d'entrepreneur. D'accord. Où il donne des conseils justement sur cette vie-là. Donc, j'écoute ça. J'écoute quoi comme podcast aussi ? LinkedIn Addict de Aliratou Lawani, qui me donne un peu une idée de comment les gens utilisent cette plateforme-là en Afrique et puis comment ils s'en servent pour réseauter, même si c'est tout nouveau dans leurs habitudes pour nous qui le pratiquons depuis longtemps.
Ouais.
Et voilà.
Génial. Je te remercie énormément, Maïmouna, pour toutes ces infos, pour t'être ouverte avec nous, partager ton expérience sur le design et sur tout le reste. Si on veut te joindre, te contacter pour discuter de design ou d'autres choses ou de pâtisserie.
Avec plaisir.
Comment est-ce qu'on peut te joindre pour continuer la discussion?
Alors, je suis disponible, je réponds à tous les messages sur LinkedIn, donc Maïmouna Sen, vous me trouverez facilement, vous pouvez m'ajouter aussi, et puis on pourra continuer la discussion à ce niveau.
Parfait, je te remercie Maïmouna, je te dis...
Merci à toi Malik.
Et bye bye.
Merci.